Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 18h31, on ouvre ce soir le débat des grandes voix avec à mes côtés en studio Guillaume Tabar, rédacteur en chef, éditorialiste au Figaro, Alexandre Malafaye, écrivain, entrepreneur et président du think tank Sinopia.
Bonsoir.
Et Eric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors hier à cette heure-ci, nous étions en train d'imaginer à quoi ressembleraient les vœux d'Emmanuel Macron. Ça y est, maintenant on le sait, des vœux au coin du feu, teintés d'espoir, marqués par l'annonce d'un changement de cap sur la vaccination. 16 millions de Français étaient devant leur poste de télévision, c'est plus qu'en 2019, où ils étaient un peu plus de 11 millions. Des vœux marqués par une volonté d'humaniser, de mettre en avant les Français qui ont fait preuve de solidarité cette année.
Marie Corentine a 24 ans. Au printemps dernier, cette infirmière fraîchement diplômée, originaire de Limoges, n'a pas hésité à tout quitter pour prêter main forte aux équipes de l'hôpital de Créteil débordé par l'afflux des malades du virus. Lucas a 11 ans et habite Béthune. Lorsqu'il a découvert la situation d'isolement des personnes âgées atteintes du Covid-19 dans l'hôpital de sa ville, il n'a pas hésité une seconde et a fait don de sa tablette pour leur permettre de communiquer avec leurs proches et de retrouver le sourire.
C'est non égrené, cette valorisation de l'action des Français dans l'épreuve. Il a eu raison de faire ça, Emmanuel Macron. Guillaume Tabar.
C'est un angle intéressant, mais vous savez, comme on dit souvent, quand on fait un sujet pour un journal, une radio ou une télévision, on dit il faut un angle. Et je trouve que dans ses vœux d'hier soir, Emmanuel Macron a pris plusieurs angles différents et du coup, ça s'entrechoquait un peu. Oui, c'était une possibilité. Quand, vous l'avez dit, il voulait humaniser c'est l'année que nous venons de passer. Donc, incarner cette longue séquence Covid à travers des visages concrets, puisque les 10 personnes qu'il a citées sont des personnages réels.
Qui existent dans la vraie vie, oui.
Exactement, hein, que ce soit Marie Corentine, Gérald, Lucas et tant d'autres. Bon, donc c'était un angle. Mais, et ce qu'il appelait d'ailleurs les visages de l'espérance pour symboliser cela. Mais il y avait cette dimension-là, mais en même temps, dans ses voeux, il y avait un côté bilan, dire voilà, bah, pendant cette année, on a fait ceci, on a fait cela, y compris ce qu'on a fait hors Covid. Il a voulu aussi parler du Brexit. Il a voulu ouvrir sur l'année prochaine.
On va revenir sur tout ça, mais restons sur l'empathie, si vous le voulez bien. Il y a quand même une volonté du président de montrer qu'il était connecté aux Français, qu'il était avec eux en première ligne. On lui avait souvent reproché justement ce manque d'empathie, son côté élitiste. Ça veut dire qu'il s'est mis à leur niveau cette fois, Eric Scholl ?
Oui, effectivement. On sait qu'on a affaire à un président qui veut toujours conceptualiser, qui très souvent a été dans le concept, dans cette volonté d'intellectualiser les choses, de trouver d'être au-dessus, de verticaliser, etc. Et là, sans doute, après, c'est pas la première fois qu'il s'exprime devant les Français depuis le début de cette épidémie, c'est la première fois qu'il le fait à travers les vœux, mais il a choisi de le faire, je dirais, en choisissant l'empathie. C'est compliqué parce que l'empathie, ça se décrète pas, il faut le sentir. Donc il y a forcément une certaine posture, un jeu aussi d'acteur, de comédien, c'est pas forcément là, même s'il avait fait des cours de théâtre, on le sait.
Il vous a convaincu, vous, Alexandre Malafaye,
le meilleur, mais je trouve qu'il a voulu, c'était cette capacité à se dire « je m'adresse directement aux Français », comme l'avait fait une Angela Merkel ou une reine d'Angleterre pendant la maladie, pendant l'épidémie, au début de l'épidémie.
On a l'impression que vous n'avez pas été tout à fait convaincu par
cet exercice. Je pense qu'il a eu raison. Ah non, moi je pense qu'il a eu tout à fait raison de vouloir être sur ce terrain de l'empathie. Je pense que c'était absolument nécessaire. À partir du moment, et lui-même a été touché par ce virus, tout le monde est touché et à un moment, il faut se dire je suis capable de m'exprimer auprès de tout le monde. Et évidemment, ça a été extrêmement critiqué par la classe politique, mais au fond, c'est pas très grave. L'effort qu'il a fait, je pense qu'il a été ressenti, et je pense que c'est nécessaire dans ce moment d'épreuve qu'ont traversé les Français en 2020 et qui vont continuer à être et qui va se poursuivre en 2021, à se dire qu'on partage tous, on est à peu près égal devant ce virus qui nous touche, quoi.
Surtout lui qui l'a déjà eu. Exercice d'empathie convaincant, Alexandre Malafaye.
Écoutez, le discours, enfin les vœux d'hier soir, objectivement, de mon point de vue, manquaient un petit peu de souffle. Mais l'exercice était très difficile parce que à la fois le choix que le président ne voulait pas faire d'annonce particulière, en même temps il voulait entre guillemets se fâcher avec personne, essayer de recréer du lien avec les Français. Et au-delà de cette liste à l'après-verre un peu particulière, moi je suis pas très à l'aise avec ce genre de mise en avant des exemples comme ça. C'est pas très européen, pas très français en tout cas. Ça fait plus penser à ce qui se passe en Chine qu'en France.
Ah oui.
Mais bon, en dehors de cet aspect-là, j'ai trouvé qu'il y avait un point important qui était finalement de mettre en avant, peut-être pas forcément ces 10 cas, parce que dans le début de son discours, discours, il a beaucoup parlé de, voilà, de la reconnaissance en fait, de cet effort collectif que les uns et les autres ont su déployer tout au long de cette crise. On est toujours là, la France est toujours debout, même si c'est compliqué pour beaucoup. Elle est toujours là, les soignants, bien sûr, il en a parlé, tous ceux qui sont en deuxième ligne, ceux qu'il a cités effectivement dans sa liste à la Prévert. Ça, c'est intéressant parce que ça parle effectivement aux Français. Plus généralement, je crois qu'il aurait pu rajouter que, et moi j'en suis le témoin de tous les jours, vous devez voir ça aussi autour de vous, l'ingéniosité des quantités phénoménales de gens, et pas simplement des 10 d'hier. Voilà, et c'est le reflet de ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens se sont adaptés, les Français, les Françaises, les jeunes, les moins jeunes, se sont adaptés, mais surtout ont cherché à trouver des solutions, à créer à la fois des solutions pour le lien, pour s'en sortir, pour aller vers l'autre, pour être solidaire. Voilà, et ça, il a essayé de le mettre à sa façon en relief. C'est une bonne chose, parce qu'on est à un moment donné où on est quand même un peu perdu, et cette espèce de dose d'humanité, à un moment donné où on cherche le chemin, c'est bien.
Il a surtout essayé d'insuffler de l'espoir, de l'optimisme aussi, c'est son rôle. Ce mot espoir, il l'a prononcé 7 fois en 15 minutes. Hein.
L'espoir est là. Et l'espoir grandit chaque jour, dans cette relance qui déjà frémit en France plus qu'ailleurs, et qui va nous permettre, dès le printemps, d'inventer une économie plus forte, tout à la fois créatrice d'emplois, plus innovante, plus respectueuse du climat et de la biodiversité, et plus solidaire. Et je sais, le Premier ministre et le gouvernement pleinement mobilisé.
Emmanuel Macron qui a placé un point sur le calendrier. Guillaume Tabar, le printemps 2021, ce sera le début d'un nouveau matin français, d'une renaissance européenne. En fait, ce n'était pas des vœux de bonne année, c'était des vœux de bon printemps.
Oui, et là encore, on tombe sur le paradoxe parce qu'il veut apporter de l'espoir. Mais il apporte de l'espoir au moment où on commence précisément une campagne de vaccination de manière, disons-le clairement, risible. Risible si ça n'était pas grave. Et inquiétant pour la réponse face à la pandémie. Je veux dire que quand on prend les chiffres, je crois qu'on en est à 9 millions de vaccins administrés dans le monde, et qu'on valide de tous les pays. Je veux dire que même le pays qui est avant nous, je crois que c'est l'Argentine, on est quand même à 10 ou 20 fois plus que nous. Bon. Et donc, il est attendu aussi là-dessus. Alors, bien sûr, le rôle du président de la République n'est pas non uniquement d'entrer dans les détails, encore qu'on a vu que depuis le début de la crise, il est capable. Et même, il aime bien entrer dans les détails.
Mais il a répondu d'ailleurs quand même sur ce sujet. Écoutez ce qu'il a dit hier soir. Écoutez.
Je ne laisserai personne jouer avec la sûreté et les bonnes conditions, encadrées par nos scientifiques et nos médecins, dans lesquelles la vaccination doit se faire. Et je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer. Chaque Français qui le souhaite doit pouvoir se faire vacciner.
À qui s'adressaient ces mots, Éric Chauhal ? À son administration ? À son ministre de la Santé, Olivier Véran ?
Je pense clairement à l'administration. On l'a vu depuis le début de cette pandémie. Il y a un problème avec la bureaucratie française. Et d'ailleurs, il a été dénoncé à plusieurs reprises le mal de cette bureaucratie. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures solutions possibles et puis ça prend du temps. Et on en est effectivement à peine 400 personnes vaccinées en France. Il y en a 30 000 au Danemark. C'est juste invraisemblable. Et là, on voit un président de la République qui ne veut pas non plus passer tous ses voeux sur ce sujet, mais qui est en colère. Et il a raison d'être en colère. Ce n'est pas admissible.
Et on en revient au même problème que lors des masques ou des tests. Hein.
C'est la même chose que pour les tests ou les masques, c'est-à-dire qu'on a pensé, on a les solutions, et tout d'un coup, il y a cette grande machine française où ça freine. On a l'impression que tous les sujets sont bloqués quelque part, et on n'arrive pas à obtenir les résultats dans les temps. Et on sait à quel point le temps est important, notamment dans cette lutte contre le virus, notamment pour se faire vacciner. Et on comprend cette colère, c'est inadmissible. Je pense que c'est un des sujets de la sortie de la crise, c'est lutter contre les maux de cette bureaucratie. On l'a vu dans la santé, on l'a vu dans l'administration de l'hôpital, c'est-à-dire que sans du tout, au contraire, mettre en cause les soignants qui ont fait leur travail, tout d'un coup, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas. À un moment, on avait été obligé de, vous rappelez-vous, hein, de faire ces TGV, de sortir ces TGV pour aller soigner des malades d'une
France,
région à l'autre. C'était au cours de la première, du premier confinement. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en France. Et ce n'est pas une question de budget, ce n'est pas une question d'argent. L'argent est là. Simplement, on voit à quel point il est parfois mal utilisé.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi le mode de communication qui ne fonctionne pas ? On ne parle que des difficultés que pose ce vaccin, alors qu'il faudrait insister sur le fait qu'on risque beaucoup plus à ne pas se faire vacciner qu'à se faire vacciner, finalement. Alexandre Malafaye.
Ça, c'est clair que tant qu'on n'aura pas une communication, on va dire, beaucoup plus convaincante, On risque de traîner pendant encore un grand moment ce type de problématique. Aux États-Unis, il y a eu un immense débat, 12 heures de rang, avec les pour, les contre, de manière à essayer de, voilà, de rentrer dans un niveau de pédagogie le plus, on va dire, le plus convaincant possible. Je crois que là-dessus, en France, on a un peu de mal avec cette façon de faire. La communication est très descendante, très univoque, il y a assez peu de débats alternatifs. Donc, de fait, les gens peuvent douter. Le sujet, en fait, il n'est pas là. Le sujet, il est qu'à partir du moment où on déroule une stratégie vaccinale, il faut y aller, quoi. Et ça confirme, en tout cas, les difficultés auxquelles on est confronté. Confirme que le choix qu'a fait Emmanuel Macron en 2017 de réformer la France par l'économie était peut-être un choix qui était... il aurait peut-être fallu s'attaquer à la réforme de l'État, du fonctionnement général de l'État, et après de dérouler d'autres réformes très importantes. Parce que la non-réforme de l'État est le problème majeur de la France depuis maintenant 30 ou 40 ans, et ça s'empire, on l'a vu avec cette crise sanitaire. Alors moi, j'étais frappé hier soir dans le paradoxe qui a été dit par le Président. Il y a que d'un côté, dans le bilan d'autosatisfaction de satisfaction qui s'adressait, en disant voilà, qu'ils avaient engagé une réforme du système de santé français dont on verrait les effets dans quelques années. Je ne l'ai pas vraiment vu, cette réforme mise en œuvre, d'une part. Et deuxièmement, quand on voit qu'on n'a absolument pas tiré les leçons de la crise, des masques et de ce qui s'est passé jusqu'à l'été pour être prêt au niveau de la stratégie vaccinale et son déploiement, je me dis, oui, il y a quand même quelque chose qui... Les lignes n'ont pas bougé. Ça, c'est quand même très dommage. Et après, moi, j'interroge quand même, et genre, peut-être c'est ce que voulait dire le chef d'État, j'interroge la stratégie vaccinale elle-même. Le choix de ne vacciner que les personnes âgées aujourd'hui me paraît un choix intéressant du point de vue de la solidarité, bien
sûr. Ça a évolué, hein, parce que les soignants vont commencer à être vaccinés à partir de lundi.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas vacciner les gens qui sont aujourd'hui en train de perdre leur jeunesse, les gens qui sont en train de perdre leur métier, les gens qui ne peuvent plus travailler, les gens qui... Voilà, c'est peut-être ça la priorité, les forces vives de la nation et la jeunesse. On est en train de voler une année de vie à nos jeunes, c'est beaucoup.
Jeunes pour lesquels le président a eu des mots très forts. Oui. Nous sommes vos débiteurs, a-t-il dit. Dire qu'on a une dette envers les plus jeunes, ça veut dire qu'il est quand même conscient du sacrifice qu'ils ont fait cette année, Guillaume Tabar.
Oui, mais peut-être que précisément, ces jeunes n'attendent pas des mots, ils attendent plutôt des décisions concrètes. Et c'est vrai que je partage tout à fait ce que vous dites en termes de stratégie vaccinale. Enfin, ce qu'on a appelé la stratégie vaccinale a consisté simplement à donner un calendrier en disant, pour faire bref, on commence par les plus vieux, on finira par les plus jeunes. Il y a certainement des vies, des gens qui sont fragiles, qu'il faut effectivement protéger en urgence ou en priorité, mais c'est vrai que ce dont le pays a besoin pour se remettre au travail, se remettre en activité, se remettre à vivre normalement, c'est que ceux qui le font vivre puissent le faire. Donc, c'est-à-dire que ceux qui peuvent travailler, travaillent effectivement, que ceux qui veulent apprendre un métier puissent l'apprendre concrètement, que ceux qui doivent étudier puissent le faire. Et ça, c'est vrai qu'on accumule les retards.
Il me semble que nos voisins européens, ils commencent aussi leur campagne de vaccination par les personnes les plus fragiles. Vous pensez que tout le monde a tort, qu'on devrait commencer plutôt par ceux qui travaillent, quoi, les jeunes?
C'est vrai que c'est un débat. Mais l'argument de dire tout le monde fait pareil, donc on va faire pareil, à mon avis, c'est un argument limité, parce que on sent bien que face à une crise que personne n'avait bien sûr prévue, imaginée, et il faut être très humble face à cette crise inédite. Donc chacun a tâtonné. Et c'est vrai que tout le monde a regardé un peu ce qu'on faisait les autres. Au début, on a vu par rapport aux stratégies de confinement ou pas de confinement. Progressivement, tout le monde s'est aligné sur la stratégie du confinement parce qu'on a vu que les autres font pareil. Donc personne n'a osé être en rupture avec cette stratégie. Lorsqu'on sera sorti de cette crise, peut-être qu'on reconsidérera tout ça et qu'on
réfléchira tranquillement.
On a fait toujours les meilleurs choix.
Bon, on va poursuivre ce débat dans un tout petit instant. Restez avec nous, surtout sur Europe 1. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Il est 18h45 et on poursuit tout de suite notre débat des grandes voix au lendemain des vœux d'Emmanuel Macron. Toujours à mes côtés, Guillaume Tabar, Alexandre Malafaï et Éric Scholl. 2021 sera une année charnière pour le chef de l'État. Il reste 480 jours de mandat à Emmanuel Macron. Dans les prochains mois, les grandes voix, est-ce qu'il va pouvoir faire autre chose que de la gestion de crise, Éric Scholl?
Pour le moment, non. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'il a appris, ce qu'on a compris de 2020, c'est que cette crise avait tout emporté, tout rattrapé, tout emporté. C'est-à-dire que on a eu un candidat en 2017 qui est arrivé sur un programme plutôt économique, plutôt de réforme, tout ça, on l'oublie. Aujourd'hui, la priorité, et cette priorité risque de durer en 2021, c'est la gestion de cette crise sanitaire. Avec cette crise sanitaire, on a aussi une crise économique. Et tout ça va ensemble et on attend des résultats. Et il va être attendu là-dessus. Et on voit bien que, vous prenez le calendrier de 2021, on va avoir une sorte de calendrier qui vont superposer à la fois celui de cette crise sanitaire et celui du début de la campagne pour 2022 qui va naturellement démarrer à la fin 2021. Et donc, on sait qu'il va être attendu là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'il aura la possibilité de faire autre chose que de la gestion de cette
d'avoir le costume
maladie
de gestionnaire et pas de réformateur?
Est-ce qu'il pourra continuer à réformer? rien n'est moins sûr. En tout cas, il ne l'a pas forcément laissé entendre dans ses vœux hier soir, même si il a fait preuve d'espoir, d'allant, etc. On voit bien qu'il a compris qu'il était attendu et les Français l'attendront sur, on le voit, sur les vaccins, sur la capacité, au fond, à remettre le pays sur pied. En
Emmanuel
comparaison
Macron,
avec ce qui va se passer aussi à l'étranger. Cette comparaison avec l'étranger, elle va revenir tout le temps. On vit tous cette crise, c'est une crise mondiale. Donc c'est vrai que ce soit sur le vaccin ou sur n'importe quel autre aspect, on est capable de se dire, tiens, est-ce qu'on fait mieux, moins bien que la Grande-Bretagne, que l'Allemagne, que l'Italie, que le Danemark ou que la Chine, par exemple.
Emmanuel Macron, dont le programme, on le rappelle, s'intitulait Révolution. Il faut oublier, vous pensez, l'idée des grandes réformes. Il s'est bien gardé, en tout cas, de remettre la réforme des retraites sur la table hier soir, hein.
Oui, et il a même eu une phrase un peu énigmatique, justement, quand il a parlé du quoi qu'il en coûte et du coût qu'aura ces mesures. Il a dit faisons en sorte de permettre que ces mesures ne soient pas un fardeau pour les générations futures. Mais on aurait aimé qu'il nous dise concrètement en quoi il allait l'éviter. Or, on voit bien, compte tenu de la lourdeur de cette crise, mais aussi compte tenu de ce qu'ont été toutes les présidences successives, surtout quand on se rapproche d'une échéance électorale, c'est que les décisions difficiles, donc les décisions courageuses mais qui ne sont pas forcément populaires, eh bien c'est quand même plus confortable de les remettre à plus tard. Et là on sent très bien que des idées pour réduire le fardeau de la dette, il n'y en a pas 50 000. Hein, donc soit on alourdit dès maintenant de manière drastique les impôts, ça a souvent été utilisé. Emmanuel Macron a l'air de se tenir à son engagement de ne pas augmenter les impôts, c'est une chose. Et l'autre solution, eh bien, c'est effectivement de faire des réformes, de réformer l'État, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire cette réforme des retraites qui permet d'éviter, non pas de trouver de l'argent, mais d'éviter que le trou et que le financement des retraites s'alourdisse encore un peu plus. Quelque part, ça demanderait presque une présidence sacrificielle. C'est-à-dire qu'il faudrait un président qui dise, bon, il y a des mesures difficiles à prendre. Bon, je sais qu'en les faisant, je serai battu, mais tant pis, je vais le faire. On cite souvent en exemple le cas du chancelier Schröder. Il ne faut pas oublier que les fameuses réformes faites par Schröder qu'ont donné du fruit quelques années plus tard, mais Gerhard Schröder l'a payé d'une défaite aux élections.
Vous êtes d'accord avec ça, Alexandre Malafaille? Il faut oublier l'idée de grande réforme ou au contraire, il faut y aller à fond, quitte à sacrifier, entre guillemets, son mandat.
Écoutez, il aurait eu plusieurs occasions depuis qu'il a été élu, pardonnez-moi l'expression, de les mettre sur la table pour montrer effectivement qu'il était prêt à prendre tous les risques. À l'occasion de la crise des Gilets jaunes, il y aurait eu des opportunités pour véritablement aller devant les Français et passer peut-être en force sur sa volonté de transformer le pays et pas simplement avec des mesures un peu légères. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, cette volonté-là, je ne sais pas s'il l'a. Est-ce qu'il veut vraiment se représenter en 2022? Est-ce qu'il pense qu'il doit se représenter coûte que coûte ou quoi qu'il en coûte? Ou est-ce qu'il doit effectivement agir le plus vite possible dans l'intérêt général? Ça, pas la réponse, c'est dans sa tête. Sur le principe, je pense que s'il voulait véritablement être utile à son pays, bien sûr qu'il faudrait ne pas perdre de temps, parce qu'un an, c'est un an. En même temps, c'est une année compliquée, hein, parce que pour l'instant, on est dans la crise et on n'arrive pas à la gérer correctement, parce que comme on n'a pas été préparé, on court après, enfin tout le monde le dit, mais c'est une réalité. Ensuite, on n'a toujours pas trouvé l'équilibre entre comment on contient l'épidémie et en même temps, comment on ne casse pas l'économie. C'est très difficile, donc on est en train de chercher la botte secrète. Est-ce qu'on va refaire des couvre-feux, des confinements. Enfin, on voit bien qu'on va chaoter jusqu'à l'été et ça, c'est quand même très compliqué. Et c'est vrai que cette crise, elle place vraiment les Français, à la fois ceux qui sont exposés sur un plan sanitaire, ceux qui sont fragiles par nature, par âge ou par maladie, et puis ceux qui sont fragiles sur un plan économique et qui payent très cher. Il n'y a pas d'égalité devant cette crise. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui sont exposés et quand on dit, voilà, nous serons là, je suis désolé, non, l'État ne sera pas là. L'État peut compenser un peu de manque à gagner, peut compenser un peu de salaire, peut compenser un peu de charge, mais il y a trop d'entreprises qui vont avoir, et trop de chefs d'entreprise, de dirigeants qui vont avoir épuisé leur trésorerie, et ça, ce n'est pas les aides de l'État, les PGE qui vont compenser, et trop de gens qui, là aussi, dans leurs entreprises, ont vidé leurs économies personnelles pour soutenir leur boîte. Et quand on a tout claqué, si je puis dire, c'est terminé, quoi.
Ça veut dire qu'on peut s'attendre à une année sociale 2021
C'est ce qu'il faut craindre. Il y a quand même un certain nombre de mouvements qui sont en train de monter en pression. Et vous savez, les révolutions sont faites souvent par les classes aisées, les révoltes sont faites par les gens qui n'ont plus rien à perdre. C'est pas moi qui le dis, c'est une formule de Jean-Claude Mailly. Mais je crois qu'effectivement, cette réalité-là, elle risque de nous rattraper quand il y aura des millions de gens qui n'auront plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils ne vont pas attendre d'aller à la soupe populaire tous gentiment, que le pays reparte parce qu'on a un projet France 2030. Ça, c'est trop flou. On ne sait déjà pas ce qu'on fera la semaine prochaine. Alors France 2030, c'est un peu loin pour tout le monde, quoi.
Éric Scholl, vous êtes d'accord avec ça?
En partie, je veux dire qu'on ne peut pas dire que l'État n'ait rien fait. Il a fait, et il a fait même beaucoup comparé à beaucoup d'autres
pays.
Beaucoup plus
que d'autres pays.
C'est-à-dire qu'on a un niveau de protection très important maintenant. L'impact de la crise.
Juste un mot, oui, mais parce qu'on a fait beaucoup plus de confinement généralisé que n'importe quel autre pays aussi. Voilà, c'est juste une petite mesure de précision.
on a fait effectivement... on en est à deuxième confinement, on n'est pas retourné en troisième confinement. Le deuxième confinement a été plus équilibré que le premier. Et c'est vrai qu'il y a, pour l'État, pour le gouvernement, cette nécessité de toujours trouver l'arbitrage le plus compliqué qui soit entre préserver quand même l'économie. Parce que si on laisse partir l'économie, on sait bien que derrière l'année 2021, on le sait, l'année 2021 va être extrêmement difficile sur le plan économique parce que
oui,
ces
oui
protections
et non,
vont s'arrêter.
Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure dans ce studio, j'avais François Candelon qui est directeur monde du BCG Anderson Institute, qui est un cabinet international de conseil en stratégie. Et lui, il était plutôt optimiste sur une reprise. Il pense que 2021 sera l'année du rebond.
Mais les deux sont vrais. C'est-à-dire que d'un côté, on le voit d'ailleurs en Chine en ce moment, le rebond est gigantesque en Chine sur le plan économique. Mais pour ceux qui ont été touchés par la crise, violemment, il y en a qui ne vont pas réussir. Si vous voulez, on va surmonter les tout prochaines semaines et tout prochains mois qui arrivent. Ils ont pu réussir jusqu'à présent à tenir à travers 2020. On sait bien que le début 2021, ça dure 3 mois, 4 mois, 5 mois, ce n'est pas la même chose. Il y en a qui vont peut-être pouvoir tenir encore 3 mois, mais après, ça va s'arrêter. Je pense à tous les petits commerces, les petites entreprises qui ont pu être aidées, mais à un moment, il va falloir rembourser les emprunts. Et il y en a qui vont devoir mettre la clé sous la porte si ce n'est pas déjà fait. Et c'est ce moment qui va être le plus compliqué. Et donc, pour l'État, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à aider à tout prix ? Est-ce que pour les autres, ça sera plus facile ? Si à partir du moment où on sort de l'épidémie, la croissance va revenir et elle peut revenir assez vite. C'est pour ça que l'année 2021, elle va être duale, bien sûr. Il y a une partie, on va être encore très très marqué, même de plus en plus par la crise. Peut-être voir un troisième reconfinement, c'est dans les toutes prochaines semaines. Et puis, si on arrive à sortir mais complètement de cette crise grâce au vaccin, et en ce sens-là, il faut absolument aller se faire vacciner, il faut en finir avec toutes ces fausses informations sur les vaccins, sur les thèses complotistes, et il a eu raison, le chef de l'État, de le rappeler hier, c'est très important pour pouvoir sortir définitivement et mettre derrière nous cette crise sanitaire. Donc ce qui est compliqué pour le chef de l'État, c'est que ça ne dépend pas que de lui, c'est une question de confiance. La confiance, elle ne se décrète pas, elle doit être partagée par l'ensemble du pays. Et aujourd'hui, on n'y est pas. On voit bien que le taux de confiance des citoyens dans les solutions, et en particulier dans les solutions vaccinales, il est extrêmement bas. Il est trop bas. C'est un des plus bas du monde.
Alors, on le disait tout à l'heure, de cette année dépendra sans doute la décision d'Emmanuel Macron de se représenter ou non en 2022. Écoutez ce qu'il disait le mois dernier dans son interview à Brut.
Et peut-être que je ne pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront. Et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. On a vécu des choses qui étaient absolument imprévisibles. Donc je ne prévois rien.
Peut-être que je devrais faire des choses dures dans la dernière année parce que les circonstances l'exigeront et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Il laisse entendre, Guillaume Tabar, qu'il pourrait ne pas y aller. Vous y croyez ?
Non. Exactement. Ce qu'il dit, parce que l'extrait qu'on vient d'entendre, valide d'une certaine manière ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'une présidence sacrificielle qui, pour le bien du pays, serait prêt à...
Mais est-ce que lui, il est prêt à cette présidence sacrificielle ?
Je ne pense pas, parce que s'il y était prêt, il ne dirait pas « Tiens, peut-être qu'au mois de mars 2022, il faudrait que je prenne des décisions qui m'empêcheront de me rentrer. » Ces décisions, il les prendrait aujourd'hui. Or, on voit bien, y compris dans les réformes qu'il met en avant, lorsqu'il parle de son bilan, il ne dit pas « Voyez, j'ai réformé l'assurance chômage pour éviter que... » Bon, il dit « Voyez, on a créé des droits nouveaux, le congé paternité, etc. » Il met en avant le côté le plus valorisant et donc le plus coûteux, et pas du tout les réformes structurelles qui permettraient au pays de se relancer. Et ça, c'est révélateur. Tous les présidents ont fait, Nicolas Sarkozy avait fait la même chose, même François Hollande, à sa manière, avait fait aussi un peu la même chose, commence par faire le boulot un peu difficile, une partie du boulot, mais ils le font quand même. Et puis, au moment où ça devient un peu dur, essaye de parler de ce qu'on appelle des réformes gratifiantes. Et c'est là, on voit bien que c'est cette volonté quand même de reconquérir le soutien, j'ose pas dire l'affection des Français qui prime. Et Emmanuel Macron, il est dans cette démarche. Il a envie, évidemment qu'il a envie de se représenter. Évidemment que tous ceux qui travaillent autour de lui aujourd'hui sont en train de travailler, de penser à la séquence de sa réélection. Alors, après, Hollande aussi avait voulu se représenter. Mais puis arrive le moment où il faut faire la part des choses.
Et là, qu'est-ce qu'il faut qu'il mette en avant ?
François Hollande n'y a pas été parce qu'il était tellement populaire que la marche était trop haute. Emmanuel Macron est dans une situation de popularité qui n'est pas extraordinaire, mais qui résiste. Il a bien résisté pendant en 2020, Emmanuel Macron. Donc il n'est pas dans le même état qu'était François Hollande. Donc l'argument de « je ne serai pas en état de me présenter » ne se posera pas de la même manière pour lui en 2022.
Alors, qu'est-ce qu'il doit mettre en avant? Parce qu'il y a quand même plusieurs textes importants, Éric Scholl, qui devraient être adoptés par le Parlement cette année. Il y a la loi bioéthique qui instaure la PMA pour toutes, il y a la loi sécurité globale, la loi qui conforte les principes républicains. L'adoption de ces textes serait autant d'arguments en faveur d'Emmanuel Macron en vue d'une candidature à sa succession ou pas? Il y a aussi le référendum pour inscrire la protection du climat dans
la
Constitution.
Que, quel que soit le texte, qu'il va devoir rechercher, c'est une unité des Français. On sait à quel point il était arrivé pour faire la réconcilier les Français, c'est ce qu'il avait dit en 2017. Jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné, pas suffisamment en tout cas. Et au contraire, des fractures, et cette crise sanitaire a contribué à accentuer les fractures. Donc tout ce qui va être fait jusqu'en 2022 va être fait avec cette idée de rendre, de remettre de l'unité. Et on voit bien, c'est sans doute pour ça qu'il n'a pas très envie de remettre en avant sur la table la réforme des retraites, même si à un moment, il ne pourra pas y couper, ou si ce n'est pas lui, ça sera lui après, s'il est réélu. Mais on voit, parce qu'elle est indispensable, cette réforme.
Mais comment est-ce qu'on fait pour remettre de l'unité aujourd'hui?
Comment
est-ce qu'on fait pour remettre de l'unité aujourd'hui?
C'est ce qu'on a vu. Alors, c'est peut-être aussi retrouver une confiance dans un chef de l'État. Donc, on l'a vu hier, traiter des thèmes de l'espoir, faire de l'empathie. Je pense que ces thèmes-là, ils s'intègrent dans une stratégie plus vaste, qui est celle de se dire, voilà, le peuple français, et on sait à quel point il joue sur cette... Il mise sur cette idée d'identité aussi française. Il l'a dit récemment à l'Express,
dans
cette grande interview, où il a précisément essayé de recréer ce socle de valeurs communes. Parce qu'il voit bien qu'il a un pays qui est extrêmement divisé, qu'il a trouvé divisé, mais qu'il n'a pas réussi pour le moment à en remettre, à ressouder. Et donc, quels que soient les textes qu'il va aborder, et ces textes pourront diviser aussi ou là, il essaiera de trouver le maximum de consensus possible.
La conclusion pour vous, très rapidement, s'il vous plaît, Alexandre Malafaï.
Je crois que, à mon avis, le prochain président devra convaincre sur un point, c'est comment il va s'y prendre, comment il va faire. Si le président se présente simplement avec son bilan et puis la volonté de chercher un peu d'empathie pour essayer de refaire du lien entre les Français, ça ne suffira pas. On a vu toutes les difficultés qu'il a eues avec sa mise en œuvre de sa stratégie, de sa politique, de son système de gouvernance. On voit bien les limites, maintenant on les voit très clairement. Voilà, donc le prochain président sera peut-être lui, mais il devra nous convaincre sur sa capacité à faire autrement et à faire avec les Français. Parce que ce qu'on ressent là encore quand on est sur le terrain, on ressent qu'il y a une fertilité, une inventivité, un engagement dans les entreprises partout, gens qui veulent transformer le pays, qui veulent s'engager. Il faut juste qu'on leur fasse confiance, qu'on les responsabilise, qu'on leur donne cette chance-là, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
On verra ça ensemble, évidemment, une prochaine fois. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné, en tout cas pour les premières grandes voix de cette année 2021. À très bientôt.